France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Les socialistes continuent de mettre la pression sur François Bayrou au sujet de la nouvelle négociation sur les retraites qu'il veut confier aux partenaires sociaux. Le Premier ministre précise qu'en cas d'avancée sans accord général, un texte sera soumis au Parlement. On attend de savoir ce qu'en pense le PS. Stéphane Robert analysera cette séquence. La cocaïne tend à se banaliser en France. Plus d'un million de personnes en ont consommé au moins une fois l'an dernier. Et la consommation d'héroïne augmente aussi. Nous étudierons ce phénomène avec Mathilde Cariou. Le Hamas dit avoir approuvé l'accord sur une trêve à Gaza. Toutes les barrières sont-elles pour autant levées? En attendant la confirmation officielle de l'accord, Farida Noir a rencontré la famille d'un otage israélien à Tel Aviv. Les visiteurs étrangers se pressent au Japon. Leur nombre a doublé depuis 2019 au point que Kyoto est engorgé. Cet afflux de touristes est le fruit d'une politique volontariste, souligne notre correspondante Karine Nishimura. Les discussions se poursuivent sur la réforme des retraites. Le Premier ministre a encore une fois été interpellé par les socialistes à l'occasion des questions au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée nationale. François Bayrou a fait une petite concession supplémentaire. Si à l'issue des échanges prévus entre les partenaires sociaux, il y a progrès sans accord global, eh bien ces aménagements pourraient être validés par une loi. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Aurélie.
Reste à savoir ce qu'en pensent les socialistes.
Oui, un petit pas et même deux petits pas supplémentaires en direction des socialistes. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a profité des questions au gouvernement en début d'après-midi à l'Assemblée pour demander au Premier ministre la garantie que les discussions promises entre partenaires sociaux sur la réforme des retraites déboucheront immanquablement sur quelque chose.
Vous avez annoncé, et c'est un premier pas, une conférence sociale et elle ne peut pas se clore par un accord ou le retour à la réforme de 2023. Monsieur le Premier ministre, à ce stade, le compte n'y est pas et vous savez que cette question conditionne notre réponse demain à une motion de censure qui a été déposée à laquelle
Merci
nous répondrons
beaucoup,
en faisant
Monsieur
notre réponse.
Député.
Merci.
Et François Bayrou a répondu par cette nouvelle petite concession.
S'il n'y a aucune sorte d'accord, c'est la réforme précédente qui continuera à s'imposer. Mais il peut se produire une situation dans laquelle des marges de progression auront été identifiées sans qu'il y ait un accord général. Si c'est le cas, nous proposerons un texte qui reprendra ces adaptations et ces progrès et nous le soumettrons à l'Assemblée.
Le Premier ministre a répété cet engagement dans les sénateurs plus tard dans l'après-midi et puis interpellé cette fois par le patron des sénateurs socialistes, Patrick Kanner, qui a rappelé qu'il y avait d'autres sujets que celui des retraites. François Bayrou a fait encore une nouvelle concession.
Je veux faire un geste de bonne volonté. Il y a cette proposition de la suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale. Je suis prêt à renoncer à cette proposition de la suppression des 4000 postes.
Les socialistes doivent désormais décider si les propositions qui leur sont faites suffisent à les convaincre de ne pas censurer François Bayrou et son gouvernement. Une réunion du groupe PS à l'Assemblée doit notamment se tenir demain, avant l'examen de la motion de censure déposée par les autres forces de gauche, prévue en fin de journée.
Après l'Assemblée nationale, François Bayrou, qui doit aussi donner des gages à ses alliés de droite, s'est rendu au Sénat. Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Vous êtes en direct du Palais du Luxembourg. Comment la déclaration de politique générale du Premier ministre est-elle accueillie par la majorité sénatoriale?
Eh bien, du côté de la droite sénatoriale, on ne pouvait pas croire à une suspension de la réforme des retraites. On salue donc la nouvelle méthode Bayrou. Mais attention, pas de concertation avec les partenaires sociaux sans respecter un cadre financier exigeant, rappelle le sénateur de la Manche, Philippe Bas.
L'important pour moi, c'est la fermeté dont il a fait preuve pour dire qu'en aucun cas on ne pouvait remettre en cause le redressement financier des régimes de retraite tel qu'il résulte de la réforme.
La nécessité de réduction des dépenses de l'État, autre engagement du Premier ministre, fait partie des mains tendues à la droite. LR demande un audit des opérateurs et agences de l'État. François Bayrou se dit prêt à y réfléchir. Il y a de l'espoir, veut croire la sénatrice LR Agnès Evren.
On ose espérer qu'il aura véritablement enfin le courage politique de s'attaquer à cette réduction du train de vie de l'État à travers ses opérateurs de l'État qui sont beaucoup trop nombreux. On demande aux Français de se serrer la ceinture, le train de vie de l'État est regardé de près et doit être exemplaire.
Autre point de réjouissance, la baisse de l'effort budgétaire demandé aux collectivités locales, ramené à 2,2 milliards d'euros. Mais au sein de la Chambre haute, d'autres voix plus perplexes se font entendre. Difficile de commenter du néant, souffle un sénateur LR, alors que le président du groupe, Mathieu Darnaud, relève encore beaucoup de zones d'ombre à éclaircir, sur le régalien notamment. Pas de chèque en blanc, donc, conclut une sénatrice LR. François Bayrou est un homme habile, mais on a besoin de plus de clarté.
Jeanne Serrin au Sénat avec les moyens techniques de Selim Guerribi. Nous retournons au procès du présumé financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Le tribunal correctionnel de Paris poursuit les interrogatoires sur l'hypothèse d'un pacte de corruption et ses possibles contreparties diplomatiques et juridiques. Les trois principaux prévenus, Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux et Claude Guéant, nient fermement ce pacte de corruption. Et c'est de leur visite en Libye à l'automne 2005 qu'il a été question aujourd'hui, avec la venue de deux témoins qui occupaient alors des fonctions diplomatiques à l'ambassade de Tripoli. Le compte-rendu d'audience de Florence Thurme.
19 ans plus tard, Jean-Luc Sibiud, l'ancien ambassadeur, n'a aucun souvenir de la visite de Claude Guéant, alors directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, visite préparatoire à la venue de celui qui est alors ministre de l'Intérieur. Mais c'est bien un potentiel futur président de la République que Tripoli accueille le 6 octobre 2005, poursuit le témoin. Une visite très importante aux yeux des Libyens, qui va se dérouler dans les jardins du guide avec des dromadaires et du folklore, puis sous la grande tente du colonel Kadhafi, un entretien privé entre les deux hommes, explique Jean-Luc Sibiud. Ils se sont éloignés longtemps, questionne la présidente, une demi-heure au plus, avec le temps de la traduction. L'interprète de Nicolas Sarkozy lui avait alors répondu qu'elle était tenue au secret professionnel. Et la visite de Brice Hortefeux, je ne l'ai pas trouvée banale. Pas l'ombre d'une hésitation dans la réponse. Brice Hortefeux était alors ministre des collectivités locales et l'intérêt libyen pour la question plutôt limité. Mais au cours de cette visite, il va rencontrer Abdallah Senoussi, le beau-frère du colonel Kadhafi, condamné à perpétuité par la France pour l'attentat contre le D-10 du TA en 1989. Une rencontre que l'accusation considère comme l'une des contreparties possibles au supposé pacte de corruption. Brice Hortefeux explique qu'il a été piégé, souligne le parquet. Mais quand on est ministre, il est difficile d'ignorer la situation de M. Senoussi. L'ancien ambassadeur complète lui-même la fin de la phrase dans un sourire, surtout quand on se rend en Libye.
Florence Thurme au Palais de Justice de Paris. Plus d'un million de Français ont consommé de la cocaïne en 2023. C'est le résultat d'une enquête publiée ce matin par l'OFDT, l'Observatoire français de la consommation de drogue et des tendances addictives. Bien sûr, ce chiffre reste bien en dessous de la consommation d'autres substances, comme le cannabis, avec 5 millions d'usagers déclarés l'an dernier. Mais par rapport à la précédente étude, en 2022, le nombre de consommateurs de cocaïne a doublé. Bonsoir Mathilde Cariou.
Bonsoir.
Alors comment expliquer cette hausse exponentielle ?
Plusieurs facteurs. D'abord, il y a beaucoup plus de produits disponibles sur le marché. La production de cocaïne en Colombie, au Pérou, en Bolivie a quasiment doublé en 10 ans et donc elle inonde littéralement le marché européen. Le prix, par conséquent, a baissé, 66 euros le gramme en 2023 contre 70 en 2018. Par ailleurs, on peut l'acheter au gramme, au demi-gramme, voire en plus petite quantité encore. Et ça aussi, ça facilite l'accès pour les plus petits budgets. Et puis, il y a le mode d'achat. Aujourd'hui, on peut se faire livrer de la cocaïne. Les trafiquants sont sur les réseaux sociaux, alors qu'avant, consommer impliquait d'aller chercher la drogue, de se rendre sur un point de deal et donc de s'exposer plus directement à la répression. Bref, tout est facilité, ce qui explique la diffusion de ce type de produit dans toutes les couches de la société.
Avec quand même, Mathilde, des milieux ou des professions plus concernées que d'autres.
Oui, les marins, les routiers, les professionnels de la restauration. Et ça, c'est un changement majeur parce que pendant longtemps, la consommation de cocaïne a été associée au milieu de la fête. C'était un produit stimulant, euphorisant, considéré à tort comme non addictif et donc pas forcément très dangereux. Mais aujourd'hui, certains le prennent simplement pour tenir des horaires, des cadences dans des milieux professionnels où la pression est intense. Et ça, me disait tout à l'heure une sociologue, c'est assez symptomatique des périodes de crise économique où la dégradation des conditions de travail entraîne une hausse de la consommation de drogue.
Mathilde Cariou, nous consommons aussi trop de sucre et pourtant les industriels en abusent. L'association de consommateurs Foodwatch s'est penchée sur la composition et la teneur en sucre d'une douzaine de catégories d'aliments transformés et conclut que les produits les moins chers sont systématiquement plus sucrés. L'association dénonce une forme d'inégalité sociale devant la santé. Et selon Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'INSERM, les politiques publiques pourraient avoir une incidence majeure sur la teneur en sucre des aliments et améliorer ainsi la santé de tous.
Le problème du sucre, notamment des sucres ajoutés, c'est que leur excès a été montré de manière maintenant certaine comme étant dangereux pour la santé, et ce pour un grand nombre de pathologies chroniques. C'est vrai pour les sucres là dans les produits solides, et c'est vrai notamment aussi pour les sucres ajoutés dans les boissons. Par exemple, c'est pas bon pour les caries. Tout ce qui est maladie cardiovasculaire, hypertension, diabète de type 2, évidemment. La fameuse maladie du foie gras aussi, maladie hépatique qui peut avoir des conséquences graves. Et puis, il y a aussi des éléments qui commencent à suggérer une potentielle implication dans le risque de certains cancers. Il faut vraiment agir à plusieurs niveaux. Il y a un niveau important, est-ce qu'il est d'agir au niveau de l'offre alimentaire, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les produits les plus favorables à la santé deviennent les plus accessibles économiquement. Et puis, on peut agir aussi au niveau de la prise de conscience des consommateurs et puis leur donner des informations simples pour faire les bons choix en rayon et faire aussi pression d'ailleurs sur l'industrie agroalimentaire avec leurs choix. Et donc, en ça, le Nutri-Score est un outil très performant. Donc ça permet vraiment en rayon de faire la différence.
Une nouvelle formule du Nutri-Score établie par les scientifiques prend davantage en compte la présence du sucre dans les aliments et boissons, mais son arrêté d'application est bloqué depuis un an par les services de l'État. Ce sont deux hauts lieux historiques, pluricentenaires du patrimoine français. Le Mobilier National et la Cité de la Céramique sont désormais réunis en un seul établissement public dédié aux arts décoratifs et métiers d'art. Il vient d'être officiellement lancé au ministère de la Culture. Ce pôle public, présenté comme unique au monde, porte le nom de Manufacture Nationale, Sèvres et Mobilier National et rassemble quelques 650 agents à Paris et dans 7 départements. Bonsoir Benoît Grossin.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes et à tous.
Ce pôle public, contesté dans sa mise en œuvre par les syndicats, s'inscrit dans une stratégie nationale en faveur des métiers d'art.
Avec un budget en hausse de 12 à 16 millions d'euros, ce nouvel établissement public va permettre de promouvoir les métiers d'art et d'assurer aussi la pérennité des formations, selon son président Hervé Lemoine.
Vous savez qu'il y a une liste officielle des 281 métiers d'art répertoriés en France. Eh bien, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une cinquantaine qui ont des formations initiales. Et que c'est une vraie urgence pour des métiers de très haute facture, à très forte valeur ajoutée, des besoins qui sont limités à quelques individus par an, 2 argentiers, 3 monteurs sur carte par an, c'est de répondre à des besoins qui sont ceux de maisons qui craignent une perte en compétences parce que les formations à ces métiers ont disparu il y a 20-30 ans généralement.
Et si de grands chantiers sont annoncés, la création d'un centre de formation des apprentis et la célébration par un grand salon en fin d'année du centenaire du mouvement Art Déco, le nouvel établissement public a été mis en place contre l'avis des syndicats. L'ébéniste Louis Boussel, secrétaire général de la CGT au Mobilier National, dénonce une fusion à marche forcée.
Le climat social, il est avant tout à l'inquiétude et à la défiance. À la Cité de la Céramique Sèvres-Limoges, à l'annonce de la fusion de l'établissement, il y a eu une vingtaine de départs, et notamment dans les fonctions administratives qui savent bien ce que veut dire une restructuration au niveau d'un ministère où leurs conditions de travail se verraient largement dégradées. La casse sociale, les agents savent qu'elle va arriver, qu'il va être revendiqué du point de vue de Bercy des économies d'échelle. Et donc à terme, bien évidemment, la crainte d'une épuration d'un certain nombre de postes et le rapprochement ne donne pas les garanties suffisantes que nous restions bien dans le champ qui est le nôtre, à savoir les missions de service public et notamment les missions régaliennes de service public.
Syndicats et direction se rejoignent, Aurélie, au moins sur un point, en appelant de concert à la réouverture de concours pour le recrutement de personnel technique qualifié dans les ateliers.
Merci Benoît Grossin, on peut retrouver votre dossier complet sur les manufactures nationales en une du site internet de France Culture, dans la rubrique L'Info culturelle. Des nouvelles en provenance du Proche-Orient, la délégation du Hamas présente à Doha, au Qatar, pour les négociations sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, dit avoir accepté les termes de l'accord. Les familles des otages, elles attendent d'en savoir un peu plus. Elles se demandent si elles reverront leurs proches, comme cet homme que vous avez rencontré cet après-midi à Tel Aviv, Farida Noir.
My name is Zohar Avigdori.
Mon nom est Zohar Avigdori et 7 membres de ma famille ont été kidnappés le 7 octobre.
6 ont été libérés le 25 novembre 2023, mais la famille de Zohar Avigdori n'est pas au complet. Tal Shoham, 38 ans, kidnappé au kibboutz de Berry, se trouve, lui, toujours prisonnier dans l'enfer de Gaza. Cet accord si proche, cette trêve à portée de main et l'espoir de retrouver Tal est un supplice pour Zohar.
C'est le point culminant d'une énorme attente.
Vous savez, nos proches proches sont à portée de main, vraiment au plus près depuis plus d'un an.
Mais ils restent prudents.
In the past 15 months, we've learned to suppress hope.
Ces 15 derniers mois, on a appris à ne plus vivre avec l'espoir, parce qu'on a eu tellement de déceptions, de blessures depuis le dernier deal.
We are forced to go against our
human instincts. On se force à aller contre nos instincts.
Which is such a beautiful thing.
L'espoir, c'est très beau, mais je n'y croirai que quand je verrai les gens revenir de mes propres yeux. C'est une étrange réalité, surréaliste. Elle est devenue nos vies, notre routine. Malheureusement, c'est quelque chose avec quoi nous devons vivre.
Les deux camps doivent maintenant libérer les prisonniers et les familles de cette attente insoutenable.
Il vaut mieux pour eux que cela se fasse rapidement. Mais nous n'abandonnerons pas, nous n'arrêterons pas de nous battre, même si cela prend des années.
Nous resterons mobilisés jusqu'à ce que la dernière personne revienne, dit-il.
Farida Noir avec Benjamin Thuo. Nous avons un accord sur les otages, se félicite Donald Trump. Selon des sources proches des discussions, effectivement, Israël et le Hamas ont accepté un accord pour un cessez-le-feu à Gaza. Accord prévoyant la libération d'otages retenus dans l'enclave. En échange de prisonniers palestiniens, nous devrions pouvoir vous en dire plus à 19h. TikTok compte plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, mais un peu partout, justement, dans le monde, le réseau social est maintenant dans le viseur des gouvernements. Aux États-Unis, une loi donne jusqu'à dimanche au groupe chinois pour vendre la plateforme de courtes vidéos sous peine d'interdiction sur le territoire américain. L'Albanie, elle, a décidé de bloquer pendant un an la plateforme chinoise, très populaire au sein de la jeune génération. Le premier ministre albanais, Edi Rama, reproche en effet à l'algorithme de TikTok d'encourager la violence chez les plus jeunes. Mais cette mesure ne fait pas l'unanimité. Écoutez le reportage de notre correspondant dans les Balkans, Louis Seyé.
Emmitouflée dans sa doudoune avec sa capuche sur la tête, Amarildo, 17 ans, fait défiler des vidéos sur son téléphone à la sortie de son lycée. Cet élève de terminale ne veut pas croire au blocage de son réseau social préféré.
Il ne faut pas qu'il ferme TikTok, parce qu'après on ne pourra plus regarder des vidéos et se changer les idées quand on a du temps libre. Moi je passe 4 à 5 heures par jour sur TikTok, même la nuit je l'utilise.
En Albanie, TikTok compte plus d'1,5 million d'utilisateurs et ses vidéos à la chaîne sont devenues la principale source d'information de la jeunesse. Étudiante de 22 ans, Hortensia est partagée quant à son interdiction.
Moi je m'informe par TikTok, mais c'est vrai qu'il vaudrait mieux que l'application ne soit pas accessible aux plus jeunes et aux adolescents.
À 4 mois des élections parlementaires, l'interdiction de ce réseau social très populaire est perçue comme une entrave à la liberté d'expression par les partis d'opposition. Reddy Mucci milite pour le mouvement Ensemble, une formation de gauche qui dénonce l'autoritarisme du Premier ministre Edi Rama.
C'est de la pure censure. Le Premier ministre contrôle déjà les médias traditionnels et il choisit de bloquer le réseau qui a le plus gros impact sur le public et sur lequel il n'a pas d'influence.
Alors que l'interdiction de TikTok devrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines, le gouvernement assure que ce blocage ne devrait durer qu'une année, le temps de trouver une solution technique pour empêcher son utilisation par les moins de 18 ans.
Louis Seyé à Tirana. Le mont Fuji, les temples, les cerisiers en fleurs, les animés et les mangas, les sushis et les onigiri. Aussi riche en innovation qu'en tradition, le Japon est devenu en quelques années l'un des pays les plus prisés au monde. En 2024, l'archipel a enregistré 36,8 millions d'arrivées de touristes étrangers, un record. Cette vague touristique sans précédent qui confine par endroits au surtourisme est aussi le résultat, Karine Nishimura, d'une forte volonté politique dans un but économique.
Depuis la fin du Covid, le gouvernement japonais a rouvert à fond le robinet à touristes étrangers. Le Japon a accueilli 36,9 millions de visiteurs étrangers en 2024, un record. Ces derniers ont rapporté plus de 50 milliards d'euros l'an passé, presque l'équivalent du budget de la défense. La stratégie étatique, qui passe notamment par des procédures de visa simplifiées pour un nombre croissant de visiteurs, est avant tout économique, souligne l'éditorialiste Takeshi Imura.
Le gouvernement a érigé le tourisme étranger en pilier de l'économie et veut encore en élever les recettes. Il a fixé un objectif de 60 millions de visiteurs étrangers en 2030 pour des revenus évalués à près de 100 milliards d'euros.
La clientèle étrangère est d'abord un moyen de compenser une consommation intérieure amoindrie par une conjoncture morose et des salaires qui stagnent. Mais aidés par une monnaie japonaise faible, les étrangers ont des moyens si élevés que les prix grimpent au grand dam des Japonais. Pour le moment, le gouvernement donne la priorité à la nouvelle ressource financière bienvenue que constitue le tourisme, mais il va au-devant de problèmes aggravés s'il néglige trop les effets négatifs de cette politique.
Karine Nishimura, correspondante de France Culture à Tokyo. La météo, après une matinée dans la grisaille, les éclaircies l'emporteront l'après-midi. Mais Météo France prévoit des averses sur le Roussillon, les Alpes frontalières italiennes et la Corse. Les températures pourront encore être négatives au lever du jour, du sud-ouest aux frontières de l'est. Les maximales seront en hausse avec 4 à 8 degrés en général, jusqu'à 15 sur le sud-est.